La curiosité est un vilain défaut.
Après 5 jours de mer, le Marion Dufresne se positionne devant l'île aux cochons, au nord de l'archipel de Crozet.
Sur RTL.
L'hélicoptère nous dépose avec une équipe de scientifiques et des agents de la réserve naturelle.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'endroit pour le campement. D'accord. Donc là, il nous reste 10 minutes pour trouver un endroit.
Cette voix, c'est la voix du reporter, du journaliste Michel Izard. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous retrouver dans le studio de la curiosité.
Ah bah oui, ça fait plaisir de revenir ici.
Et ça fait plaisir de vous avoir parce qu'il y a nos souvenirs de TF1 qui remontent à nos oreilles aussi. Vous êtes donc reporter à TF1. Vous avez réalisé cette série de sujets dans les terres australes avec une destination qui est particulière. L'île aux cochons. Alors on va raconter toute cette histoire, mais d'abord il faut se situer. On est où sur la planète et pourquoi aussi c'était un privilège en tant qu'être humain tout simplement de vous y rendre.
Alors c'est situé dans le sud de l'océan Indien, grosso modo entre l'Afrique et l'Antarctique, à mi-chemin, à 2500 km de l'Afrique, à 2500 km de l'Antarctique. Mais là, on est dans l'influence de l'Antarctique et ce sont des petits rochers, des petites îles perdues au milieu de l'immensité de l'océan. Et en fait, elles sont ravitaillées 4 fois par an par un navire qui s'appelle le Marion Dufresne, qui est le navire des terres australes et antarctiques françaises et qui assure la liaison vers de petites bases françaises là-bas, dans ces îles perdues.
Et ces îles, il faut les mériter, Michel Izard. Cette île aux cochons, on fait comment pour y arriver? Racontez-nous la longueur du périple.
Le bateau part de La Réunion, il met 5 jours, 2700 km pour arriver vers cette île. Alors c'est tout un voyage, parce qu'au fur et à mesure où on descend, on quitte les tropiques et le vent fraîchit, la température de l'air, la température de la mer descendent et on commence à entrer dans ce qu'on appelle l'influence antarctique, le front polaire. Et là, ces îles apparaissent. Et d'ailleurs, c'est déjà tout un voyage d'aller là-bas. C'est déjà quelque chose, mais se ajouter, nous, quand nous y étions, quelque chose de supplémentaire, parce que les scientifiques que nous allions accompagner sur cette île aux cochons étaient tout excités, ils se sont préparés tout le temps, ils ne pensaient qu'à ça, parce que cette île, il faut savoir qu'elle est, pour les ornithologistes, pour les naturalistes, c'est quelque chose de mythique. Il y avait là la plus grande colonie de manchots royaux du monde. 500 000 couples.
C'est des grands pingouins en quelque sorte.
C'est pas des pingouins, c'est des manchots.
Oui,
mais enfin,
pardon,
disons, à l'époque où ils ont été découverts, au XVIIe siècle, on disait les pingouins.
Mais
vous avez 3 siècles de retard,
c'est
pas grave.
Voilà, on n'a pas avancé,
mais on a pour situer.
Ça ressemble à ce qu'on appelle parfois les pingouins.
Merci,
et donc, ils sont très beaux, ces manchots royaux. Ils ont ces couleurs mordorées, oranges autour du cou. C'est des animaux magnifiques. Il y en avait 500 000 couples. Je ne sais pas si vous y imaginez, 500 000 couples sur même pas 1 km². C'est pratiquement, avec les poussins et puis ceux qui n'ont pas, presque 2 millions de manchots. Et ça, c'était mythique pour les...
Et leur population a décru, c'est ça?
Alors, oui, au moment où la France préparait le dossier pour la candidature de ces terres au patrimoine de l'humanité, des photos aériennes ont montré que la colonie avait chuté vertigineusement sans qu'on sache pourquoi. C'est une énigme, c'est un mystère que les scientifiques ont voulu percer. Pourquoi ils ont baissé autant.
Et donc vous les accompagnez, mais c'est la première fois que des humains mettent le pied sur cette île depuis des décennies, c'est
des
ça?
Des décennies, parce qu'en fait cette île avait été classée réserve naturelle intégrale. Mmh. On avait choisi de pas y mettre les pieds. Donc on les avait laissés, ces manchots, merveilleusement vivre à l'état naturel pendant des décennies. Et la dernière mission, c'était 1982. Et là, il fallait y aller pour essayer de comprendre.
Et c'est ce que vous allez nous raconter. On va découvrir, grâce à vous, l'île aux cochons. Surprise, on n'y trouve aucun cochon.
Résultat, vous êtes sûr de votre info cette fois-ci?
Totalement sûr de mon info.
Elle n'est pas du 17e siècle.
Je peux confirmer.
Oui, merci beaucoup, parce que lui, il y est allé. Lui, c'est un vrai copain, lui. Et on va vous raconter ça dans un instant sur RTL.
L'île est une réserve intégrale. Personne n'y est venu depuis près de 40 ans.
Si votre défaut, c'est la curiosité...
Ben là, on découvre en fait l'autoroute à manchots. C'est le chemin qu'ils empruntent pour aller de la mer jusqu'à la colonie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les chercheurs viennent mener une enquête. Ils vont essayer de comprendre pourquoi les effectifs de cette colonie de manchots royaux, qui était une des plus grandes du monde, ont chuté ces dernières années.
Vous êtes bien sur RTL.
avez reconnu la voix de Michel Izard, reporter à TF1. Vous nous racontez cette mission incroyable sur l'île aux cochons dans l'archipel. On va resituer Crouzet au sud-ouest de l'océan Indien. C'est à 5 jours en bateau de l'île de la Réunion. Il fait de plus en plus froid quand on approche. Évidemment, il y a du vent. Et vous accompagnez en fait ces scientifiques qui sont chargés de comprendre pourquoi la population de manchots royales tend à disparaître. Alors quand vous arrivez sur cette île, vous l'expliquez, c'est une réserve naturelle intégrale. C'est-à-dire que l'humain n'y a pas mis les pieds depuis des décennies.
Oui.
Ça doit être un paradis quand vous arrivez. Ça ressemble à quoi, cette île ?
C'est un paradis, si vous voulez. C'est loin parce que c'est à 13 000 km, mais surtout c'est loin parce que c'est un autre monde, quoi. On est là dans un monde, une terre vierge, pratiquement intouchée par l'homme, pratiquement entièrement préservée, telle qu'elle pouvait être justement avant les hommes, une terre d'origine qui est un peu un berceau. Un berceau de la vie, et en même temps c'est une maternité, c'est une crèche, parce que les oiseaux, les manchots, les albatros, les éléphants de mer viennent s'y reproduire, et donc c'est une nature sauvage qui vous saute à la gueule, si je puis dire.
Vous arrivez à la période aussi des naissances, c'est ça, Michel Izard, sur cette île?
À la période, il y a certaines naissances, et puis c'est la période des poussins. Et si vous voulez, quand on arrive, c'est vraiment quelque chose de, disons, de très 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 puissant, quoi, de se retrouver face, vous imaginez, au milieu de à peu près 60 000, 80 000 manchots, les poussins avec leur duvet marron, là, qui viennent vous voir, qui s'approchent, parce que
ils sont pas craintifs,
parce que sur ces îles, il n'y en a jamais eu de prédateurs. Donc dans leur ADN, ils n'ont pas de défense, ils n'ont pas de raison de se défendre.
Ils sont curieux,
donc ils sont curieux, ils arrivent, ils s'approchent jusqu'à un mètre, et puis là, c'est bouleversant, et surtout, c'est envahissant de bruit parce qu'ils piaillent, ils crient, ils chantent, ils s'appellent les uns les autres. C'est pas un vacarme, c'est une symphonie.
Ça donne ça à peu près.
Oui, ça donne ça. C'est ça. On est envahi par le bruit. Ils disent papa, mais ils disent maman aussi.
Ils parlent le manchot royal couramment. Ouais. Elle a deux, trois qualités, quand même, Denis Bonnec.
Je vois.
Vous auriez dû l'emmener avec vous.
Est-ce qu'elle sait régurgiter? Vous savez régurgiter aussi pour nourrir vos poussins? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Ils ont dans leur estomac plusieurs kilos de poisson. Il est à moitié digéré, il les régurgite.
Les conditions climatiques, ça donne quoi? Il y a beaucoup de vent, c'est ça, sur l'île aux cochons?
Il y a beaucoup de vent. Il y a une végétation qui ne dépasse pas 20 cm de haut, parce qu'il y a des vents tellement violents, tellement réguliers. Ne pas avoir de vent, ça n'existe pas. Alors le minimum.
Il n'y a pas d'arbres.
Il n'y a pas d'arbres. C'est une végétation comme une lande, une tourbière, des sortes d'herbes sur lesquelles on marche. Il n'y a pas de chemin, donc c'est harassant de marcher là, face au vent et dans ce terrain spongieux, et d'essayer de suivre les manchots qui, eux, tracent leur route comme des petits charlots, Charlie Chaplin, vous savez.
Est-ce qu'il y a des cochons sur l'île aux cochons? Parce que ça apporte quand même.
Voilà la question.
Il y a dû y en avoir au moins à une époque.
Oui, parce que c'était une île qui était fréquentée au 19e siècle par les chasseurs de phoques qui ont fait des massacres sur les éléphants de mer et d'ailleurs sur les manchots aussi. Et comme ces gens passaient des semaines, parfois des mois sur ces îles, ils ont eu l'idée à un moment donné d'introduire, pour varier la nourriture un peu, des cochons. Sauf que ces cochons se sont multipliés, ils sont devenus fous, ils mangeaient tous les pingouins. Donc après, je dis les pingouins, je vais me faire assassiner par les ornithologistes.
Non, mais c'est de ma faute.
C'est des manchots, c'est de votre faute.
Je prends tout sur moi, c'est de ma faute.
Et donc, à un moment donné, ils ont décidé de tuer les cochons. Et finalement, de cochons, il n'en reste plus que le nom.
Et c'est drôle, donc pas l'ombre d'une queue en tire-bouchon sur l'île aux cochons. Elle ressemble à quoi? Elle est grande d'ailleurs, cette île?
C'est une île qui fait à peu près 65 km², donc c'est tout petit en fait. C'est une douzaine de kilomètres sur 8 ou 9 kilomètres, un peu étiré avec beaucoup de falaises et quelques plages.
Et difficile d'accès quand même.
Et difficile d'accès. Elle est aussi hantée par des histoires de naufrages, cette île aux cochons, parce qu'il y a des brisants, il y a des rochers, il y a la houle permanente, il y a eu des naufrages, et d'ailleurs il y a eu des, j'y pensais moi quand j'étais sur place dans notre campement, il y a des marins qui sont restés là coincés pendant plusieurs mois
et qui ont été
sur
sauvés
cette île. Certains ont été sauvés et d'autres, on n'a jamais eu de nouvelles. Ils sont restés pendant des mois à vivre là, à manger des manchots, à manger des éléphants de mer.
On avait raconté cette histoire, Sidonie, l'histoire des marins du Tamaris.
Du Tamaris,
oui. Qui se sont retrouvés sur l'île aux cochons et qui ont, alors ça je me souviens, l'histoire d'un mousse qui avait eu l'idée géniale de mettre un message sur un albatros en se disant...
Oui, c'est ça, exactement.
Quoi, en
1887, et cet albatros, on l'a retrouvé à Fremantle en Australie, sur la côte ouest de l'Australie, à 5500 km. Et c'est là que les Australiens avaient alerté la France, qui a envoyé un aviso en 1887 pour essayer de récupérer ces marins, ces malheureux marins, mais ils ne les ont pas trouvés.
Et parce qu'entre-temps, les marins avaient décidé de quitter l'île aux cochons en espérant rejoindre une autre île.
Et on n'a jamais eu de nouvelles. Donc cette histoire-là...
Vous aviez ça en tête, quoi.
Ben oui, on avait ça en tête, parce qu'aussi, à un moment donné, on a trouvé un chaudron dans lequel ces fauquiers faisaient fondre la graisse des phoques, des éléphants de mer qui tuaient. Il était là sur la plage, un chaudron en métal, très très impressionnant.
C'est donc par hélicoptère, hein, c'est ce qu'on a vu dans l'un des extraits de reportage, que vous avez débarqué sur cette île aux cochons. Et là, vous allez nous raconter dans le détail, Michel Izard, cette mission des scientifiques. Quelles sont les pistes pour expliquer pourquoi cette colonie de manchots royaux, le manchot royal, est en train de disparaître? A tout de suite sur RTL.
L'île aux cochons est un concentré de la variété et de la richesse de la faune.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ça, c'est un albatros hurleur qui a déjà près de 9 mois, qui va partir dans quelques semaines.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Une profusion unique dans un site inviolé qui a contribué à convaincre l'UNESCO de classer les terres australes françaises au patrimoine de l'humanité.
Le journaliste Michel Izard nous raconte ce reportage magnifique, extraordinaire. Vous avez le talent pour vous inventer des missions de bonheur. C'est sur les terres australes, sur l'île aux cochons, avec ce groupe de scientifiques qui est donc chargé d'enquêter sur la disparition de la population de manchots royaux. On les a pas vraiment décrites, ces bestioles, elles sont... Alors moi, je confonds avec évidemment les manchots qui sont pas des pingouins de la marge de l'empereur.
Oui, c'est les manchots empereurs. Les manchots empereurs, ils sont... plus grands, déjà, ils sont plus imposants, ils ont plus de prestance, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les appelle les empereurs, mais ils vivent que en Antarctique, sur le continent gelé. Et là, nous sommes au nord, sous l'influence climatique de l'Antarctique, mais à environ 2000 km au nord de l'Antarctique. On est sous son influence, mais c'est pas le même climat, ce n'est pas gelé. Et ces manchots royaux, eux, ils sont un peu plus petits, ils font environ 80 cm, une douzaine de kilos, et ils sont très beaux, ils sont pas timides, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils sont presque familiers. Et pourtant, ce sont des animaux sauvages. C'est ça, cette grande émotion qu'on peut ressentir en étant auprès d'eux, c'est que ils sont vraiment sauvages. On pourrait même avoir l'illusion à un moment qu'ils sont des animaux familiers, des animaux comme on a autour de soi ici, dans nos appartements, dans nos jardins. Mais non, c'est des animaux purement sauvages, mais pas farouches. Et donc, on est au milieu d'eux, comme si on était avec eux, quoi.
Mais malheureusement, donc, cette population, il y avait 500 000 couples il y a quelques décennies, il n'y en a plus que 60 000 à peu près aujourd'hui. C'est ce qui motive la mission.
Alors, c'est une énigme pour les scientifiques, parce que dans cette région-là, des terres australes et des îles qu'on appelle subantarctiques, les populations de manchots royaux sont plutôt, sur toutes les autres îles, en croissance. Et là, il y a un mystère. On ne savait d'ailleurs pas pourquoi il y en avait autant là, depuis des milliers d'années. Et pourquoi maintenant, tout d'un coup, la population a chuté.
Quelles sont les hypothèses, Michel Izard?
Alors, ils ont un conseil scientifique à travailler dessus, a émis trois hypothèses. Soit un problème d'alimentation. Ils iraient se nourrir dans une zone moins favorable et par atavisme, ils continueraient à y aller. Mais c'est moins favorable, donc ils peuvent moins nourrir leurs poussins.
Parce qu'ils partent loin, j'ouvre une parenthèse, pour aller chasser des poissons et les rapporter à la progéniture, c'est ça ?
Il faudrait écouter les scientifiques qu'on a suivis, Charles-André Bost ou Yves Chérel du CNRS de Chizé en parler, mais c'est des animaux fabuleux sur Terre. On les voit se dandiner, on les voit un peu pâteaux, mais En mer, c'est des torpilles. Ils vont jusqu'à 300, 400 kilomètres au loin, parfois même plus loin, parfois jusqu'à plus de 1000 kilomètres. Ils plongent 50 fois par jour jusqu'à 200 mètres de profondeur. Enfin, c'est des athlètes. Et ils vont très loin. Donc, ils pourraient aller dans une zone un peu au nord de ces îles qui, avec le changement climatique, le réchauffement de l'océan, pourrait être moins favorable en termes d'alimentation.
Ça, c'est la première piste.
Donc, ils vont leur poser des balises. Mmh. Bon. Alors, je passe à la deuxième piste. La deuxième piste, ça serait une maladie. Donc, ils leur font des prélèvements pour voir si ils n'auraient pas contracté une maladie. Et la troisième piste, qui va vous surprendre, ça serait un prédateur.
Mais vous nous avez dit qu'il n'y en avait pas.
Je vois que vous suivez, c'est bien. Mais il n'y avait pas de prédateur. Et si, parce qu'en fait, avec ces marins qui ont fréquenté les îles, ces chasseurs de phoques, sont arrivés des souris et des chats.
Des chats.
Nos petits matous qui sont dans nos jardins, ce sont des terribles tueurs quand ils sont...
Mais des tueurs de manchots, c'est tellement plus petit qu'un manchot.
Oui, c'est la question qui se posait. Et donc, ils ont enquêté. Et on a vu des chats. On a suivi, on est allé la nuit essayer de voir s'il y avait des chats. Mais en fait, il y a des chats, il y a bien des chats. Mais à côté de cette population de manchots, il y a énormément de petits oiseaux qu'on appelle les prions de Salvin, qui sont des oiseaux de ces régions-là, qui sont beaucoup plus petits, qui nichent dans des terriers, dans les herbes. Et ce sont des proies beaucoup plus faciles pour les chats, si bien que la piste du prédateur, elle, a été abandonnée.
D'accord, donc il reste la maladie ou l'appauvrissement de la nourriture. Vous y étiez en novembre dernier, c'est ça ?
On y était en novembre dernier.
On a les résultats de...
Et on n'a pas encore les résultats. D'ailleurs, avec le confinement, les échantillons ont eu du mal à venir. Mm-hmm. Ils viennent à peine d'arriver, donc ça prendra encore plusieurs mois. Mais si je peux dire ce qui était fabuleux aussi de voir ces scientifiques travailler, c'est vraiment très impressionnant parce qu'il faut capturer ces manchots. Il faut les capturer.
Avec douceur.
Alors, il faut les capturer à la fois avec délicatesse, mais avec fermeté. Parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent se débattre. S'ils se débattent, ils risquent d'ailleurs de se blesser. Ça peut prendre du temps. Donc, il faut que ça soit vite fait, bien fait. Et de voir l'attention, de voir la qualité d'approche, tout ce que ces personnes mettent leur engagement pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible est très, très impressionnant. Mmh. Et de choisir le bon manchot. Pas n'importe lequel parmi toute une population. Alors on les voit regarder.
Ouais, ils ont leur caractère, les manchots.
Ils ont leur caractère. Et puis il y en a, c'est des femelles, il y en a, c'est des mâles, il y en a, c'est des jeunes, il y en a qui viennent de se reproduire, il y en a qui vont se reproduire. Donc il y a tout un choix. Et on les voit les attraper, les choisir, les viser. Et puis après, les attraper délicatement, leur faire les analyses qu'il faut et les relâcher. Et quand ils les relâchent, j'ai remarqué, c'était très touchant aussi, le Charles-André Bosse qui les relâchait. Les tenait, les accompagnait, un peu comme on dirait à son enfant, vas-y, tu pars, fais ton chemin. Et là, et on voyait ce manchot équipé d'une balise, partir au milieu de la colonie, se dandinant comme ça au milieu des autres, avec sa balise au dos qu'il va garder pendant plusieurs mois. Oui. Elle tombera quand il changera de plumage, quand il fera sa mue. Et pendant des mois, elle va émettre pour donner des renseignements.
Et ben voilà, une histoire magnifique. Merci Michel Izard de l'avoir partagé avec nous sur RTL. Il faut citer le JRI, le journaliste reporter d'images qui vous a accompagné là-bas.
Oui, Bertrand Lachat, mon vieux complice que vous connaissez.
Aussi,
et je remercie aussi le monteur avec qui je suis en train de monter un film pour Ushuaïa TV sur le mystère de l'île aux cochons.
Génial, merci Michel, à très bientôt.
Merci à vous.
C'était un bonheur, on vous suit sur TF1 et LCI, évidemment.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.